Chapitre 1. Une période difficile pour le parent. Elle devient hyper susceptible et se replie dans sa chambre. Il clame son désir de liberté et pose des verrous sur sa porte. Elle prend de plus en plus d'autonomie, mais l'organisation n'est pas son fort. Il vous tient des raisonnements d'une grande sagesse et quelques instants plus tard se montre tout à fait inconséquent. Quant à la mesure des dangers, que ce soit ceux de la route, de la drogue ou du sexe, n'en parlons pas. Tout cela nous plonge dans des abîmes d'inquiétude. Les ados ne maîtrisent guère leurs réactions émotionnelles. Et à vrai dire, il semble que nous aussi perdions souvent le contrôle. Nous sommes surpris par nos réactions démesurées, par des tendances à la coercition que nous aurions cru éradiquer. On les accuserait volontiers de faire exprès d'appuyer sur les bons boutons tant ils semblent exercer le talent de nous déstabiliser. Sont-ce eux qui nous font devenir chèvres ? Ou se pourrait-il que ce soit les résurgences de notre propre adolescence avec son lot de souffrances, d'angoisses et de doutes ? Il fait sa crise d'ado, je fais ma crise de milieu de vie. Votre fils s'apprête à sortir. Instinctivement, vous vous empressez de prendre votre brosse et de le recoiffer. Vous êtes satisfaite. « Voilà, c'est bien comme ça !» Votre fils semble assez déconcerté. « Maman, c'est quoi le problème, là ?»« Lâche-moi !» La période de maternage est terminée. Ces années consacrées à protéger, soigner, emmener le bambin au square sont derrière nous. Oui, il y a un deuil à faire, celui du bébé, et surtout de notre sentiment d'utilité. On se sentait si important. Non seulement il ne pleure plus quand nous nous absentons, mais il est ravi. Nous sommes désormais relégués, sans grand ménagement, à une position périphérique. Il nous faut entendre le message. Notre enfant est devenu grand et bientôt, il va partir de la maison. Les questions qui se posent à l'ado se posent à nous en miroir. Qui suis-je ? Quelle est ma place dans la société ? Qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant que mon enfant s'apprête à devenir adulte ? Retrouvez sur le site filiosa.net une méditation à ce sujet, « Devenir celui que j'ai envie de devenir ». Elle ferme sa porte à clé. Votre fille s'est encore enfermée dans sa chambre sans raison. Vous lui ordonnez « Ouvre !» et pensez au fond de vous qu'elle vous déteste. Elle répond en criant de l'autre côté de la porte « Non ! Va-t'en ! Laisse-moi mon espace !» Je ne sais pas ce qui m'arrive. Elle se blottissait dans nos bras et nous suivait partout. Désormais, elle ferme la porte de sa chambre à clé et il nous semble parfois qu'elle clôture aussi son cœur. Elle ne nous confie plus autant ses chagrins et nous ignorons le détail de son emploi du temps. Elle se réfugie dans sa musique, dans son odeur, dans les réseaux sociaux, sur son smartphone. Elle place des frontières, privatise son intimité. Quand elle nous tourne ainsi le dos, cela peut réactiver en nous le souvenir de rejet subi dans notre propre enfance et déclencher d'intenses réactions de stress, fureur, pleurs ou désarroi. Serait-ce devant la porte de notre propre maman que nous tambourinons ? C'est le moment de remplir notre propre réservoir d'attachement en renforçant les liens avec conjoints, famille et amis. C'est peut-être aussi l'occasion de guérir de nos blessures anciennes. Comment avons-nous été aimés par nos propres parents ? Si des sentiments d'injustice nous traversent, si notre fille nous semble ingrate, ces sentiments nous appartiennent. Ils parlent davantage de notre propre histoire que de notre enfant. Retrouvez sur le site filiosa.net une méditation à ce sujet, « Guérison de l'enfant intérieur ». Il n'a plus besoin de moi. Ils avaient besoin de nous pour toutes sortes de choses. Désormais, ils prennent le bus seuls, ne nous demandent plus la permission d'aller ici ou là, ni même notre avis. Pour s'habiller, manger ou s'endormir le soir, notre aide n'est non seulement pas requise, mais souvent malvenue et rembarrée. Il est loin le temps où le tout petit hurlait quand on le laissait tout seul dans sa chambre. définitivement sortis de la période de dépendance qui nous donnait ce doux sentiment d'être indispensable, l'ado teste ses capacités d'autonomie et s'exerce à ne pas avoir besoin de ses parents. Le filet de sécurité que nous constituons lui est cependant nécessaire. Et si nous nous absentons, physiquement ou moralement, c'est la panique. Même s'il ne nous le manifeste pas quotidiennement, et même s'il semble privilégier ses pairs, nous restons des figures d'attachement sur lesquelles il fonde sa sécurité, le porte-avions sur lequel il aura toujours une place. C'est dur de se sentir sur la touche, après avoir été tant sollicité dans le passé. Inutile de prendre personnellement ces rejets. La relation reste essentielle. Des rituels familiaux hebdomadaires permettront de nourrir de contact tant l'ado que l'adulte. Tournois de gin rami, soirées jeux de société, dîners concours de créativité et de déco, escalade en salle du lundi soir. Cultivons aussi des temps d'intimité. Inscrivons dans nos agendas des moments particuliers avec chaque enfant. Et puis, en étant présents, et pas seulement physiquement, nous pourrons nous remplir de l'amour que nous éprouvons pour lui. Nous n'avons pas besoin de faire pour aimer, juste être là. Il ne m'écoute plus. De bon matin, vous listez à votre ado les tâches de la journée. Alors, on récapitule. Ta douche, 6h45. Petit-déj, 7h. Brossage de dents, 7h20. Déposé au lycée, 7h45. Ton cours d'escalade, 17h. À 18h30, tu vois Jérôme. Tu prends le bus pour 20h pour le dîner. Et voilà.
Oh, ça va, maman, j'ai plus 4 ans. Arrête de diriger ma vie, ça me stresse.
Nous voulons le meilleur pour sa vie. Mais c'est sa vie. Parfois, notre mécanisme du contrôle s'emballe un peu et nous sommes pris dans des automatismes dont il est difficile de se débarrasser. Il échappe à notre surveillance et ne nous écoute plus, tout au moins en apparence. Certains parents supportent mal leur impuissance, luttent en posant limites et ultimatums, proposent des récompenses et punissent dans un ultime espoir de récupérer du contrôle. Passer en mode autoritaire est peine perdue. Il ne sera plus jamais ce petit bébé dont nous maîtrisons l'existence. Et si nous nous exercions à contrôler la seule personne que nous pouvons contrôler, à savoir nous-mêmes? Pouvons-nous reprocher à notre fils de ne pas persévérer dans ses études quand nous ne parvenons pas à arrêter de fumer? Pouvons-nous reprocher à notre fille son addiction aux réseaux sociaux quand nous répondons à nos mails au lieu de disputer avec elle une partie de jeu de société? Eh oui, c'est vrai, votre grand garçon a déjà 15 ans. Séchez vos larmes, vous allez vous en remettre. Profitez plutôt de ces évolutions pour prendre du temps pour vous et enfin vous inscrire à ce cours de yoga dont vous parlez depuis des mois. Je suis folle d'inquiétude. Il est l'heure, et pourtant, votre fille n'est toujours pas là. L'inquiétude monte et 1000 pensées traversent votre esprit. Elle n'est toujours pas là. Ce n'est pas possible, elle a une montre pourtant. C'est la dernière fois que je la laisse sortir. Ça fait une demi-heure qu'elle devrait être rentrée. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle ne prévient pas? Pourquoi tu t'inquiètes? Toute perte de contrôle génère de l'insécurité. C'est naturel. Accepter de ne pas pouvoir diriger cette vie issue de nous et qui nous est si chère, c'est tout un parcours jonché d'émotions, lesquelles, faute d'être écoutées, risquent de se muer en fortes angoisses quand, par exemple, le jeune ne rentre pas à l'heure dite. Inquiétude que, bien évidemment, l'ado ne peut comprendre et risque d'interpréter comme un manque de confiance en lui. Il nous faut de l'ocytocine, l'hormone qui calme le cerveau. Les bras d'un autre adulte, ou au moins quelques paroles au téléphone, nous aideront à relâcher la tension pour accueillir notre enfant sans stress excessif. Car la qualité de la relation sera meilleure garante de son respect futur des règles que la crainte de rencontrer visage fermé et punition. Face à son arrogance, mes émotions me débordent. Votre fille est en groupe avec quelques amis. Son comportement vous dérange. Elle dépasse les bornes et vous ne pouvez pas vous empêcher de le lui faire savoir tant vous avez l'impression de ne pas gérer la situation. « Tu es insupportable !» Ce à quoi votre fille répond « Fais pas chier, maman, on s'amuse, y a rien de mal !» Quand tu me traites comme ça, en plus devant mes copains, j'ai envie de m'enfuir loin ou de t'agresser. Et comme je ne veux faire ni l'un ni l'autre, je me fige. Pour récupérer un peu mon statut social auprès de mes copains, il faut que je montre que tu ne me fais pas peur. L'ado en groupe semble nous échapper totalement. Elle peut se montrer insolente, méprisante. Nous ne la reconnaissons pas. Notre propre amygdale cérébrale est prompte à identifier cela comme un rejet et déclenche une réaction de stress. L'intensité du stress face à un groupe d'ados peut être vraiment difficile à juguler, d'autant qu'ils peuvent effectivement se mettre en danger. C'est ce que la situation réveille en moi d'émotions et de tensions qui m'est insupportable. 1. Je modifie ma posture physique. Au lieu de faire face à l'adolescent ou au groupe d'ados, je me mets de profil, 2-3 quarts, ou si je sens que la fureur est vraiment extrême, je m'assieds, par terre, au besoin. S'asseoir a le double avantage de donner un signal de calme à notre cerveau et de modifier la perception des ados. Ne nous percevant plus comme un danger, leur réaction de défense diminue d'autant. Je décris mentalement mes sensations. Je sens mon cœur qui bat et une forte chaleur dans ma poitrine. Je sens des tensions dans mes bras et des crispations dans mes mâchoires. Mes sourcils sont froncés. J'expire 3 fois lentement pour me calmer avant de m'adresser à l'ado. Je peux l'annoncer. Je vais respirer pour me calmer. Histoire d'en profiter pour enseigner une petite technique de régulation du stress que nous aimerions que nos ados utilisent aussi. Parfois, mes réactions sont démesurées. Sans le vouloir, une scène du quotidien, a priori anodine, provoque en vous une grande colère. Vous explosez. C'est n'importe quoi de prendre son petit déjeuner à midi. Tu fais un drame d'un rien. Nos réactions disproportionnées sont à la mesure de notre stress. Une accumulation de tensions, le réveil de notre propre histoire, notre impuissance, la perte de contrôle déclenche le circuit de stress dans notre cerveau, attaque ou fuite. Comme nous sommes en position de pouvoir face à l'ado, notre cerveau choisit l'attaque. Quand le moindre incident devient urgent et grave, il est utile de stopper toute interaction avec l'ado et de prendre le temps d'identifier la source de notre réactivité. Je reprends le contrôle de mon corps. Les bras m'en tombent, je les lève vers le ciel. Je ne peux m'empêcher de crier, je chante ce que j'ai à dire. Je change de posture physique et je respire. Je m'interroge. Et si d'autres émotions se cachaient sous ma colère? Peur, honte, tristesse, douleur. Je reconnais et j'écoute mes véritables émotions. Comment mes parents réagissaient-ils face à ce type de comportement lorsque j'étais adolescente? Suis-je exaspérée parce que je ne me suis jamais permis moi-même, adolescente, ce comportement? Ou parce que mes parents l'ont puni? J'adresse ma tendresse à l'ado que j'étais. Je change mon interprétation. C'est mon interprétation de la situation et non la situation elle-même qui me met en rage. Je relativise. Je regarde la situation depuis un autre temps. Je me projette dans 20 ans. Comment je regarderai alors la situation? Depuis un autre pays? Comment je verrais cela si j'étais au Bengale? Depuis une autre planète? Retrouvez sur le site filiosa.net la trousse d'urgence du parent, outil de régulation du stress. Je marche sur des œufs.
J'ai l'impression d'être un pestiféré. Les adultes ne m'aiment pas.
Si les ados nous regardent d'un œil torve et réagissent au quart de tour, c'est peut-être parce qu'ils perçoivent la tension qu'ils provoquent chez les adultes. Car ces derniers sont nombreux à se méfier des adolescents, n'osent plus leur parler, s'écartent dans la rue, voire changent de trottoir. Au XVIIe siècle, la littérature nous parle déjà des jeunes qui erraient en horde effrayant les gens. Les ados ont le sentiment de faire peur et pensent parfois que les adultes ne les aiment pas. Ils n'ont pas tout à fait tort. Des études ont montré que face à un problème, les adolescents sont les premiers suspectés. Invoquant la crise d'adolescence, les adultes leur imputent facilement la faute. Certes, les adolescents prennent des risques et transgressent. Certains peuvent se montrer violents, peut-être d'ailleurs parce qu'ils se vivent rejetés. Mais là n'est pas la seule raison. Peut-être parce que, justement, nous n'avons pas oublié notre propre adolescence, nos hésitations, nos certitudes absolues et nos doutes, notre solitude ou notre hyper-socialisation. Nous n'avons pas oublié les risques que nous avons pris, les blagues de plus ou moins bon goût faites aux parents ou aux copains. Les adultes ont été ados. Et ça n'a pas toujours été simple. Incertitude, solitude, agressivité, tension. Les méfiances vis-à-vis des ados pourraient être les souvenirs refoulés, projetés sur l'ado. Je prends soin de l'ado que j'étais. Je laisse monter quelques souvenirs et je me donne l'écoute et l'attention que je n'ai peut-être pas reçue à l'époque. J'écris une lettre d'amour et de gratitude à l'ado que j'étais. Je souris affectueusement à chaque ado que je croise, en adressant chaque fois un sourire à l'ado que j'étais. Plus je l'aime, plus je serai à l'aise avec tous les ados. Nous ne sommes pas d'accord sur l'autorité. La tentation est forte d'argumenter et d'entrer en conflit. L'un veut défendre son enfant, l'autre veut reprendre en main la famille. S'agit-il encore de conceptions divergentes de l'éducation quand le conflit est si virulent? Nous pouvons le croire, d'autant que la société nous renforce dans cette idée. En France, une majorité d'adultes restent autoritaires et défendent un droit à punir, à corriger, à gifler, et fesser. Ils restent, sans s'en douter, influencés par leurs émotions. D'où vient que ces convictions autoritaires soient si fortes? Elles nous évitent de l'angoisse. Elles viennent justifier les comportements que notre cerveau et notre histoire nous dictent. Des chercheurs ont mis en évidence que les attitudes éducatives ne semblent pas influencées par la raison. D'autres, à l'aide des techniques sophistiquées d'imagerie, ont montré pourquoi. Notre cerveau a été impacté par ce que nous avons subi alors que nous étions enfants. Selon l'attitude de nos propres parents, nous avons un cerveau aux capacités intactes ou non. Si, enfant, nous avons été souvent punis, rejetés, frappés, humiliés, si nous avons eu peur de nos parents, nos amygdales cérébrales ont été suractivées et sont devenues plus sensibles et très réactives. Parce que nos parents n'ont pas posé de mots empreints d'empathie sur nos émotions, nous n'avons pas eu la chance de développer les capacités inhibitrices et calmantes de notre cerveau préfrontal. Et nous avons moins de récepteurs à ocytocine. Hyperactivité de l'amygdale, plus peu d'ocytocine, plus peu de maîtrise émotionnelle, égale un cocktail qui nous mène à réagir par du stress, là où un autre parent, élevé avec davantage de tendresse et d'empathie, aura une réaction plus centrée sur le besoin de l'enfant. Un automatisme inscrit dans notre cerveau nous fait crier sur l'enfant. Mais nous voyons la peur dans ses yeux. Or, nous ne voulons pas l'avoir blessé. Cette dissonance crée de l'angoisse, de la honte. Notre psychisme recourt alors à un processus dit de réduction de dissonance cognitive. Il est plus facile de modifier ses pensées que ses comportements, puisque ces derniers sont inscrits dans nos réseaux neuronaux. Nous changeons donc nos pensées pour justifier notre comportement. Il l'a bien cherché. Il faut mettre des limites. Il n'y a pas de mauvais parents. Chacun bute sur les résonances de sa propre histoire. Prendre systématiquement le parti de l'enfant risque d'engendrer davantage de problèmes que cela n'en résoudra. Sous la dispute apparente, la problématique est plus profonde. Un parent se montre excessif ? C'est sans doute que son enfance remonte à la surface. Il n'a pas besoin de jugement, mais de soutien. La meilleure façon d'éteindre la violence, c'est l'amour. Et si nous tentions l'approche empathique ? D'autant que nos enfants nous imitent. Que désirons-nous leur enseigner ? L'empathie ? La compassion et la résolution de problèmes ? Ou le jugement et le blâme d'autrui ? Vous pouvez aller visionner sur le site filiosa.net la vidéo « Quand l'autre parent n'est pas d'accord ».